Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
In the house.
Radio News and the people.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
L'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène en Russie, que l'on commence à explorer avant l'élection sans surprise, la réélection sans surprise de Vladimir Poutine. Vous verrez comment vivent les 20 millions de Russes pauvres. On est bien loin des oligarques riches ici, mais bien loin aussi des élections sous les radars. Florence Paracuelos avec une danse en Arabie Saoudite, avec Facebook, réseau social pour quinquagénaire, et avec un lion qui tue un chasseur. 18h50, Trump, saison 2, et Grégory Phillips avec des turbulences de violence conjugale qui tombent pas très loin de la Maison Blanche. 18h55, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, qui se demande si c'est vraiment une bonne nouvelle, Jacob Zuma qui va quitter la tête de l'Afrique du Sud. Mais avant, je vous emmène en Syrie, dans des zones pilonnées par l'armée syrienne, le jour d'un début de texte de résolution qui n'aboutira probablement pas, et au lendemain aussi d'accrochage avec Israël, qui ne disent rien de bon. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit donc examiner ce lundi un nouveau texte concernant une trêve de 30 jours pour permettre notamment aux civils de la Ghouta de respirer, d'évacuer des blessés. Un texte qui peut toujours se transformer en résolution, mais j'ai presque envie de dire pourquoi faire, puisque au final, au moment du vote, il n'a que très peu de chances d'aboutir, sauf revirement qu'on n'imagine pas des Russes. Et pendant ce temps, l'offensive syrienne sur la Ghouta a fait 250 morts en quelques jours. C'est pas la seule mauvaise nouvelle de Syrie, puisque les accrochages avec Israël tendent encore un peu plus la région. Et bien sûr, on y viendra. Bonsoir Jean-Pierre Filliu.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain. Avec vous, on parle aussi dans un instant avec Abdulrahman Al-Mawas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole des casques blancs qu'on a appris à connaître lors de ce conflit syrien. Les seuls à secourir les blessés, les derniers à rester là où les gens sont livrés à eux-mêmes. Et vous pourrez nous donner des nouvelles directes du terrain. Jean-Pierre Filliu, chaque chose en son temps, on dit que c'est la pire période de combat depuis le début du conflit. En fait, est-ce que Bachar est en train quoi de tenter de donner le coup de grâce? C'est ça l'idée? Il y a une sorte de dernière punition collective en ce moment?
Je crois qu'il faut, à un moment quand même, au bout de 7 ans d'un conflit aussi atroce, se comporter une fois pour toutes en adulte et regarder l'horreur en face. L'horreur continuera, l'horreur s'aggravera même peut-être tant qu'Assad restera au pouvoir. Il est la raison de ce conflit, il est la principale cause de centaines de milliers de morts et de millions de réfugiés. Et donc ce n'est pas du tout un coup de grâce, ce sera une nouvelle escalade dans l'horreur qu'il inflige depuis le début à son propre peuple.
J'ai envie de dire jusqu'où en fait à ce stade-là?
Il faut bien voir que pour Assad, l'essentiel est acquis. Il pourrait continuer de gouverner sur des ruines, il pourrait effectivement rester au pouvoir en ayant expulsé, ce qui est le cas, la moitié de sa population, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. Mais il s'est rendu indispensable à la Russie, à l'Iran, ces deux puissances ayant gagé sur son maintien au pouvoir leur nouveau statut à la fois dans la région et à l'extérieur. Et du coup, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre sur le fait qu'un jour, ses parrains étrangers pourraient exercer des pressions sur lui, c'est tout le contraire qui se passe. C'est lui qui mène le bal et c'est lui qui force, vous parlez de l'armée syrienne, mais c'est beaucoup l'aviation russe qui pilonne et les milices pro-iraniennes qui continuent ce qu'on peut qualifié d'opération, d'occupation du territoire syrien par des forces étrangères.
Alors justement, Moscou donne plus que son blanc-seing, puisque vous l'avez dit, effectivement, ce sont les avions russes qui pilonnent, mais est-ce que la Russie n'est pas un peu coincée elle-même au piège de sa propre alliance avec Assad, finalement, incapable de l'amener vers une résolution qui pourrait être un semblant de résolution politique? Même la Russie n'est pas capable de ça, apparemment.
Mais personne ne serait capable, parce que toute forme de solution politique impliquerait un minimum de concession de la part d'une dictature comme celle d'Assad, qui est absolument incapable de la moindre concession. Elle aurait pu répondre aux manifestations pacifiques du printemps 2011 par des réformes qui auraient sans doute éteint l'élan révolutionnaire révolutionnaire. Elle n'a pas voulu le faire, elle a préféré plonger le pays dans ce bain de sang et elle le continuera. Il faut savoir que cette incapacité à faire des concessions n'est pas seulement par rapport à son propre peuple. Le père de Bachar el-Assad, Hafez, juste avant de lui léguer le pouvoir à sa mort, avait refusé une paix avec Israël qui ne lui rendait que, si j'ose dire, 99% du territoire du Golan occupé. Avec les Assad, c'est toujours 100%. Et 100% pour eux, ça veut dire 0% pour le reste du peuple syrien, pour l'opposition, dont on a vu que dans toutes ces tendances, hein, qu'elles soient kurdes, nationalistes, islamistes, armées civiles, elle a boycotté la soi-disant conférence de paix, le dialogue national que les Russes voulaient parrainer sur les rives de la mer Noire à Sotchi à la fin du mois dernier.
Mais alors qu'est-ce qui nous sort de cette impasse? Je vous écoute, j'ai envie de dire ben rien. Les États-Unis considèrent que la guerre est finie puisque la guerre c'était contre Daesh et maintenant c'est fini. À leurs yeux, j'entends bien, la France vraisemblablement est hors jeu. Donc qu'est-ce qui nous sort de là?
Ben on voit bien qu'on a du côté de Moscou et de Washington deux politiques cohérentes mais qui oublient la moitié de l'équation. Les États-Unis et leurs alliés, dont la France, ont une politique cohérente contre Daesh qui porte ses fruits mais qui a désormais totalement abandonné la solution syrienne proprement dite. Les Russes, c'est exactement l'inverse. Et évidemment, quels sont les principaux bénéficiaires de tout cela? C'est les djihadistes qu'on a enterrés un peu trop vite et qui, si l'horreur se poursuit, eh bien, fatalement, inévitablement, connaîtront un retour de flamme.
Jean-Pierre Filliou, Emmanuel Macron avait fixé une fameuse ligne rouge avec les armes chimiques. Est-ce que nous sommes finalement, et peut-être en pire, dans la même situation que Barack Obama en 2013, c'est-à-dire que la ligne rouge, elle est allègrement franchie, mais personne n'osera et ne peut, là, en l'état, faire quoi que ce soit pour essayer de pallier à cela. Est-ce qu'on est finalement dans une situation similaire ?
La situation s'est nettement dégradée parce que justement la ligne rouge de 2013 n'avait pas été respectée. Ce qui veut dire que les monstres avaient été libérés à l'époque et on voit bien comment cette descente aux enfers avait favorisé l'envol de Daesh.
Mais là aussi on a passé la ligne rouge qu'avait normalement soi-disant fixé Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron avait déclaré au printemps dernier, et je cite ses propres propos, qu'il serait intraitable, je répète, intraitable sur deux questions. La question de l'utilisation des armes chimiques, dont on a toutes les raisons de croire qu'elles ont de nouveau été utilisées, en tout cas du gaz au chlore ces derniers jours et ces dernières semaines. Et l'autre question, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'accès humanitaire aux zones assiégées. Or, aujourd'hui, on a des opérations militaires qui violent tout le droit de la guerre, qui font que des civils sont pris en otage, qu'ils sont affamés, qu'ils sont littéralement poussés à la mort lente, et effectivement, un président aussi intraitable et très silencieux sur des sujets sur lesquels il devrait être cohérent avec ses propres, comme vous l'avez dit, lignes rouges.
Mais est-ce qu'on peut en attendre quelque chose? Est-ce que tout seul, Emmanuel Macron peut décider de faire quoi, en fait?
Mais là encore, tout dépend comment on pose la question. À partir du moment qu'on dit que en Syrie l'important c'est Daesh et qu'une fois Daesh vaincu, eh bien l'essentiel est acquis, eh bien on voit bien qu'on oublie une très grande partie de l'équation et notamment celle qui concerne le sort du peuple syrien. Et donc le président Macron a fixé ses lignes rouges, appelons-les ainsi, a dit qu'il serait intraitable. Eh bien il n'a qu'à l'être, il peut l'être parfaitement. Et s'il veut effectivement montrer que sa parole a un sens sur la scène internationale et plus spécifiquement au Moyen-Orient, il faut qu'il passe des paroles aux actes. Et ça, c'est tout à fait faisable, mais ça implique de la volonté, de la détermination et d'être capable d'aller jusqu'au bout.
Abdulrahman Al-Mawaz, vous qui êtes le porte-parole des casques blancs, donc au cœur de ce conflit, les casques blancs, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Jean-Pierre Filliou à l'instant? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes ici en France? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un rôle à jouer? Est-ce que vous attendez de nous, et peut-être au sens large de l'Europe, qu'il se passe quelque chose d'autre?
We expect to do something from international community at the all,
oui,
from the Europe.
Quelque chose de la communauté internationale, notamment de la part de l'Europe.
We faced the same situation in 2013, as you mentioned.
Nous l'avons dit, la situation était similaire en 2013.
But unfortunately,
mais malheureusement,
they just take the tool of the crime and they kill the criminal.
Donc le crime a été utilisé et le crime se perpétuel. Et le peuple syrien voulait que s'applique la loi humanitaire international. Rien de plus, rien de moins. Donc si la communauté internationale et si le Conseil de sécurité de l'ONU veut appliquer cette loi humanitaire internationale, eh bien cela est possible. Mais jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'écouter, qu'entendre parler de cette ligne rouge de manière répétée, la ligne rouge, la ligne rouge, la ligne rouge. Et désolé, mais la semaine dernière, le régime syrien a utilisé des armes chimiques dans le nord de la Syrie. Donc moi, je peux vous dire, la ligne rouge a été franchie.
Est-ce que vous pouvez nous l'affirmer, ça? Est-ce que vous en avez des réelles preuves? Parce qu'on sait bien et on entend tourner en rond les dirigeants de ce monde disant qu'on a des doutes, mais on n'a pas de preuves tangibles. Est-ce que vous pouvez dire, oui, des armes au chlore ont bien été utilisées sur des populations civiles? On le sait, on l'a vu.
Eh bien, sur le terrain, nous voyons des cadavres. Et nous retrouvons des bouteilles de gaz comme utilisées dans le nord de la Syrie. Donc c'est, voilà des preuves. Mais la communauté internationale se contente d'être témoin de ce crime de guerre. Nous sommes en 2018. Imaginez donc qu'il se produit un crime de guerre, celui dont nous parlons. On a vu des photos, des vidéos sur ces crimes et année après année, mois après mois, on répète les mêmes choses, on voit les mêmes choses, mais ça ne se suit pas d'action.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui se passe en ce moment dans la Ghouta orientale? Comment les gens arrivent à survivre? Est-ce que vous pouvez, vous, les casques blancs, travailler?
Il y a un an, j'étais ici et je me suis entretenu avec le président Hollande et nous avons parlé de la situation à Alep. Alep a assiégé et il y avait beaucoup de bombardements et les hôpitaux étaient bombardés et beaucoup d'autres installations civiles. Le gouvernement français nous a promis d'aider Alep, d'aider le peuple syrien d'Alep, d'arrêter le siège de Alep. Me revoici à Paris et je viens avec les mêmes photos, mais pour cette deuxième zone dont nous parlons. Eh bien, les photos sont les mêmes, les lieux sont différents, c'est tout. Donc, nous sommes face à une grande ville assiégée. Il y a un manque criant d'équipement médical. Il n'y a pas d'évacuation médicale non plus. Il y a des gens qui veulent quitter cette zone assiégée, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui veulent partir, qui veulent fuir, mais qui ne le peuvent pas. Les moyens manquent et les moyens d'évacuation manquent. Il y a un manque de nourriture et par conséquent, les gens sont affamés et en train de mourir. En plus de ça, il y a des bombardements, les hôpitaux sont visés et les centres de défense civile, de protection civile et les infrastructures sont considérablement attaqués.
Abdulrahman Al-Mawa, je sais qu'il faut que vous partiez parce que vous avez beaucoup de rendez-vous. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de plus finalement aujourd'hui? Vous le dites, il y a un an, vous aviez rencontré François Hollande au sujet d'Alep et puis vous revenez avec les mêmes photos. Est-ce que vous attendez réellement quelque chose de différent cette fois-là?
I expected not more disappointed for my people, for my colleagues.
Eh bien, je souhaiterais que la déception ne soit plus la même.
I expected more actions.
Je souhaiterais voir plus d'actions et moins de mots, moins de paroles, plus d'actions.
Et merci beaucoup pour votre passage et merci pour vos mots aussi. Jean-Pierre Filliou, il y a un élément supplémentaire depuis ces derniers jours. Israël qui engage une lourde attaque sur des sites syriens et iraniens, un duel qui est en train de se jouer aussi. Est-ce qu'il faut craindre, est-ce que vous craignez vraiment qu'il y ait une vraie escalade militaire dans ce sens?
On peut tout craindre lorsque tous les explosifs sont là, que la mèche est là et que chacun joue avec les allumettes. Ce qui est très frappant, c'est qu'Israël a beau être un État au cœur du Moyen-Orient, ils ont en fait commis la même erreur, la même myopie que les puissances extérieures. Pendant très longtemps, Netanyahou s'est dit, oh ben après tout, la Syrie, si le Hezbollah et les pro-iraniens luttent contre les islamistes et les djihadistes, c'est une bonne nouvelle pour Israël. Et maintenant, il se retrouve avec une présence iranienne sans aucun précédent à sa frontière nord. Donc lui aussi fixe ses lignes rouges et puis voit qu'il a de plus en plus de mal à les respecter. Ce qui est, mais alors là, historiquement nouveau, c'est que l'accrochage de ce week-end s'est soldé par un appel de Vladimir Poutine aux intéressés, donc à une médiation russe, pour éviter une montée aux extrêmes. Ça veut dire que l'administration Obama, puis l'administration Trump, ont passivement ou activement laissé littéralement le Kremlin occuper leur place pour le meilleur et pour le pire au Moyen-Orient.
Et justement là-dessus, est-ce que Moscou va devoir choisir entre Israël et l'Iran ?
Non, au contraire. Moscou peut parfaitement continuer à jouer les bons offices, à gérer les provocations les uns des autres. Alors ça, on est dans les jeux de puissance classiques. Et Israël est tombé dans le piège. Netanyahou a cru qu'en allant voir Poutine à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, il pourrait empocher la bonne volonté russe. Il faut savoir qu'il s'était étranglé dans un récent conseil des ministres israéliens en disant mais Poutine ne m'a pas dit la vérité. Ah, ben voilà, bienvenue dans le monde des adultes.
Et alors, une dernière question, j'ai peur de connaître votre réponse. Est-ce que les Américains sont vraiment derrière Israël ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils encourageraient une confrontation ou pas ?
Ben là encore, les Américains, en ayant abdiqué une politique proprement syrienne, une politique qui prenait en compte le devenir de la Syrie pendant et après Assad, se sont liés les mains. On voit bien que quelques jours avant cet accrochage israélo-iranien, il y a eu un accrochage très sévère sur la vallée de l'Euphrate, où des dizaines de partisans d'Assad et de miliciens pro-iraniens, dont certains étaient venus d'Afghanistan, excusez-moi, mais que faisaient-ils là, hein, ont été tués par l'aviation et l'artillerie américaine pour défendre l'Euphrate, donc défendre une forme de ligne de partage entre une zone Assad d'un côté, une zone tenue par la coalition de l'autre. Donc une fois de plus, on a voulu évacuer la question d'Assad, on a voulu évacuer la question du pouvoir en Syrie, du droit des populations, et on se retrouve aujourd'hui avec la tragédie qui s'ajoute à la tragédie, et ce qui peut-être réveiller les énergies diplomatiques, des risques de guerre et d'internationalisation beaucoup plus importants aujourd'hui qu'il y a 7 ans.
Jean-Pierre Filu, merci beaucoup, merci mille fois de votre passage dans Un jour dans le monde, merci aussi à Abdulrahman Al-Mawas qui est avec nous il y a un instant, et puis à Xavier Combes pour la traduction bien sûr.
France Inter, Fabienne Sintès. Un jour dans le
monde. La suite d'Un jour dans le monde en Russie avec ceux qui ne voteront pas. C'est l'autre Russie que va nous présenter Claude Brouillot dans un instant. Florence Paracolos, notamment en Arabie Saoudite. Grégory Philippe, Trump, saison 2 et des affaires de violence conjugale qui tournent pas loin de la Maison Blanche, on va dire.
Oui, qui concerne en fait deux collaborateurs du président, mais pas le président, mais ces deux affaires de violence conjugale sèment pas mal le trouble ici, avec des conséquences politiques, on va y revenir.
Et à tout à l'heure, Jean-Marc Four, le monde à l'envers, avec un Jacob Zuma qui s'en va, bonne ou mauvaise nouvelle
alors ? Ouais, il est très corrompu, il s'apprête à prendre la porte, mais ça ne veut pas dire que la corruption ne va pas revenir par la fenêtre.
Allez, à tout à l'heure, 18h55, voici Cosmopike sur France Inter, Great Dane.
There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth. And you've been away for the fall. I've barely seen you at all. Impressions over you, blue like bikini at all. Shallow pain, but it's not deep down. Cigarettes while you're asleep now. I've taken less care, I feel weak now. You said you was flying to Milan in about a week now. I don't mind to reignite the fire, besides from that we'd relight. If you try to ask me why, the fact that I've lied and you're tired of that. Well, I don't blame. That closure was the way she exposed my name. And now I'm supposed to tell you all them times and them place, but I'm still developing. Enveloped in the elephant of the room I'm already in. I don't give up, it's irrelevant. Keeping away from the fall. Barely seen you out. You come and see me at school when you're
partake and let's get I feel weak now. You said you was flying to the in about a yo, but I don't mind to reignite the fire. Besides from that we light. And if you try to ask me why the fact that I've lied and you're tied to that, I don't blame, I'm only claiming in a state that closure was the way. She exposed my name and shame now. Time is in their face, but
voilà, pour tout vous dire, j'ai jeté la feuille du monsieur qui chante, mais on était ravis de l'entendre sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Irresponsible Papillon.
Bonjour dans le monde.
Intervention extra.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sous les radars, Florence Paraquilos qui va chercher l'info internationale dans les recoins de la planète. Embarquement pour Riyad, la capitale d'une Arabie Saoudite en pleine mutation.
Et oui, on a beaucoup parlé d'ouverture ces derniers temps à l'initiative du prince héritier Mohamed Ben Salman. C'est lui qui a la main au pays de la rigueur islamique. Il a autorisé les femmes à conduire. Elles peuvent maintenant aller au stade. Les cinémas rouvriront le mois prochain. Et selon l'AFP, des hommes et des femmes se côtoient désormais dans certains restaurants de Riyad. L'étau se desserre donc. Les mutawas de la police des mœurs ont moins de pouvoir. Et ce week-end, un éminent dignitaire religieux a estimé que les Saoudiennes ne devraient pas être obligées de porter l'abaya, cet temple noir qui les couvre de la tête aux pieds. 90% des femmes pieuses dans le monde musulman ne la portent pas, dit le cheikh Abdullah Al-Mutlak. Ça, c'est le côté pile du changement, Fabienne, parce qu'il y a un côté face. C'est le conservatisme qui n'a pas disparu et qui tire l'élastique dans l'autre sens. Il s'est largement exprimé ce conservatisme la semaine dernière après la diffusion d'une courte vidéo. C'est filmé dans la rue, ça fait 9 secondes, sur un trottoir, un homme et une femme dansent sur un fond musical, on l'a pas bien entendu là, mais c'est très court, ils sont à 2 mètres l'un de l'autre, la séquence est donc très courte, la danse est festive, rien de plus, mais elle a outré une bonne partie de la population, c'est devenu un débat national, que fait la police religieuse, ont demandé des centaines de Saoudiens, à l'image de ce youtubeur trentenaire que Rachid Zourdani m'a traduit, patouche à la morale saoudienne. C'est peut-être des frères et sœurs, mais même des frères et sœurs. Ils sont en public. Ils ne peuvent pas danser devant les gens. C'est pas possible. Mon frère, tu représentes ta famille. T'as pas d'éducation ou quoi? Alors devant l'afflux de ce genre de commentaires, et celui-là est plutôt soft, il y en a des bien plus violents sur les réseaux, ordre a été donné d'identifier et d'arrêter les danseurs. L'élastique se tant en Arabie Saoudite, définitivement entre progressistes et conservateurs.
Allez Florence, ça se confirme, Facebook c'est en train de devenir un truc de vieux.
Et oui, c'est l'agence spécialisée e-marketeur qui enfonce le clou avec ses prévisions pour 2018. Exemple, en Grande-Bretagne, où 700 000 jeunes de moins de 25 ans devraient quitter le réseau cette année. Facebook c'est ringard désormais. C'est sur Instagram et sur Snapchat qu'il faut partager ses photos, ses vidéos, ses commentaires, ce que vous faites évidemment Fabienne.
Bien sûr.
Sauf quand on est né dans les années 70 et avant, c'est là que vous faites exception.
Voilà.
Et c'est là que Mark Zuckerberg continue à faire son beurre. Parce que ceux qui affluent vers le réseau historique, ce sont les plus de 45 ans, 600 000 nouveaux arrivants cette année, toujours en Grande-Bretagne. Et les plus vieux seront les plus nombreux. 100 000 inscriptions chez les 45-54 ans, 200 000 chez les 55-64 ans et 300 000 chez les plus de 65 ans. Ouais. Parce que Facebook, ça permet de rester connecté avec sa famille, notamment de voir les photos de ses petits-enfants, de conserver une vie sociale au moment où elle a tendance à s'effilocher. Ce qui colle parfaitement avec le nouvel algorithme du réseau qui tourne depuis janvier, resserré sur les publications de la famille et des amis de l'utilisateur. 14 ans après sa création, le réseau des étudiants est-il en train de devenir le réseau des retraités? Bah pourquoi pas, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Voilà, citation de Lavoisier dans Un jour dans le monde. Check. Enfin, c'est pas très ragoûtant ce que vous allez nous raconter maintenant. Ça se passe, et ça vous fait rire, ça se passe en Afrique du Sud.
Oui, c'est une histoire cruelle et morale, comme le sont les contes pour enfants. Il était une fois de méchants braconniers de la province du Limpopo. C'est là que se trouve la réserve privée du Hotspruit, à côté du parc Kruger. Ces hommes, vils et cupides, avaient l'habitude de tuer de bons gros rhinocéros pour leur arracher leurs cornes et les vendre en Asie, où elles sont prisées pour leurs prétendues vertus thérapeutiques. Un millier de rhinos tués l'an dernier en Afrique du Sud. Ces hommes, hors la loi et sans cœur, tuaient aussi des lions. Dans la réserve de Hotspruit l'an dernier, on en a retrouvé plusieurs, sans la tête et les pattes coupées pour être vendues, elles aussi. Un beau jour, dans cette même réserve, c'était la semaine dernière, apercevant un de ces hommes armé d'un fusil, un groupe de lions s'est jeté sur lui. L'histoire ne dit pas s'ils se sont avancés à pattes de velours pour surprendre le braconnier ou s'ils l'ont coursé sur quelques mètres. En tout cas, ils l'ont bouffé tout cru, comme si la nature tout à coup se vengeait. Mais à l'inverse de leurs chasseurs, eux, ils ont laissé la tête.
Raoul,
oui, il est violent ce lion, on peut le dire au réalisateur.
Mais grand comme vous avez de grandes dents, Florence. Allez, revenez demain quand même.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Beyrouth, France Inter.
C'est en Russie que nous sommes, là, en train de prendre le tramway avec Claude Brouillot. La Russie a un peu, plus d'un mois d'élections sans surprise qui ne passionnent pas beaucoup les Russes, surtout ceux que vous allez nous présenter. Bonsoir Claude Brouillot.
Bonsoir Fabienne.
Un chiffre, Claude, a rappelé dans cette Russie, des oligarques richissimes vivent 20 millions de pauvres, un chiffre en hausse constante. Ils sont 15% à s'en sortir, à tenter de s'en sortir avec 150 euros par mois seulement. Dans la seule capitale russe, ils sont entre 10 et 15 000. Et c'est ce qu'on voit grâce à votre reportage.
Au centre d'accueil du SAMU social en banlieue sud de Moscou, la fin de la matinée est propice aux entrées et sorties des résidents temporaires qui, comme Sergueï, 63 ans, en profitent pour aller acheter du pain à la boutique au coin de la rue. Après son divorce, cet ancien fonctionnaire des transports dit qu'il a joué de malchance en perdant ses papiers. Il a aussi perdu son appartement.
Je n'ai pas d'endroit pour vivre. J'ai perdu tous mes papiers. Et sans papiers ici, tu ne peux pas avoir de toit. Il faut que je refasse faire tous mes documents. Après, je pourrai à nouveau être inscrit et recevoir ma retraite. Avant, j'avais un bon travail à la direction des tramways et des bus. Maintenant, le seul argent que j'ai, c'est l'église qui me le donne. Ici, on me donne des médicaments. Tout est difficile. Comme on dit, c'est pas le paradis.
À l'autre bout de la ville, près de la gare de Yaroslav, dans un grand chapiteau de toile blanche, 26 organisations caritatives, dont le SAMU social de Moscou, assurent la distribution de nourriture tous les jours pour les plus pauvres. Vitaly, 55 ans, est un habitué des lieux. Il dit qu'on lui a volé ses papiers il y a 5 ans, et là aussi, sans document officiel, il a perdu le bénéfice de son appartement malgré ses démarches.
Rien ne se passe depuis 5 ans. Je vais de poste de police en poste de police, mais sans aucun résultat. J'ai travaillé pendant 4 ans en noir pour des associations parce que je suis croyant. Et je travaillais à la gloire de Dieu. En échange, on m'offrait un toit et de la nourriture. Je travaillais juste pour des remerciements.
Perdu dans ses formalités, Vitaly finit par avouer qu'il espère tenir encore 5 ans pour avoir droit à une petite retraite, dit-il, de quelques dizaines d'euros par mois. À la tête du SAMU social de Moscou, Eva Bertrand insiste sur l'aspect administratif très marqué du traitement social de la pauvreté en Russie.
C'est ce système qu'on appelle de prapiska, l'enregistrement. C'est-à-dire qu'en Russie, pour recevoir une aide sociale, il faut être enregistré à une adresse. Les personnes que nous accompagnons en sont par définition exclues. Ça fait plusieurs années que je suis implantée en Russie et ce dont j'ai l'impression, si on compare par exemple à la France, c'est que une difficulté d'ordre social matériel, en France, on va avoir le réflexe de s'adresser à l'État. En Russie, ce sont davantage des processus de débrouille. On est plus sur des liens interpersonnels, des solidarités, alors qu'ils peuvent être familiales. Et si ce support, ce soutien est défaillant, alors en effet, on ne trouve pas ailleurs forcément de recours autre.
La débrouille, les aides familiales et amicales pour survivre illustrent aujourd'hui encore cette capacité des Russes à repousser les effets de la pauvreté. Un état d'esprit toujours tourné vers la résistance aux difficultés qui ne favorise guère les réformes sociales, pourtant maintes fois annoncées par les autorités. Le mois dernier, en quelques jours, Vladimir Poutine a annoncé l'augmentation du salaire minimum à destination de ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres, à raison de 163 euros par mois contre 139 auparavant. Quant aux familles les plus démunies, elles recevront une aide dès la naissance du premier enfant. Des mesures annoncées opportunément en pleine campagne électorale, mais qui ne changent rien fondamentalement aux grandes orientations du Kremlin. Pour Sergueï Parkomenko, journaliste russe dans plusieurs médias indépendants.
Le problème, bon, en fait, on est quand même dans le pays où tout ce qui est les programmes sociaux sont systématiquement en baisse, et c'est le pays, je dirais, très militarisé maintenant. On voit l'augmentation systématique de tous les budgets militaires, les budgets de sécurité, les budgets de police, les budgets de FSB, tout ce qui est militaire. On voit le pourcentage juste minimal pour tout ce qui est l'école, l'instruction, la médecine, les retraités. C'est plus ou moins le budget de pays en guerre. Je crois que ça va continuer durant le nouveau période de Poutine. Il n'y a pas d'habitude de vivre bien. Il y avait un certain période d'augmentation de niveau de consommation. Et ça va se baisser petit à petit. La possibilité de survivre, la possibilité de supporter ce niveau de vie, il est très important en Russie.
Et Sergueï Parkomenko de rajouter que la majorité des Russes aujourd'hui ne font pas le lien entre leurs difficultés extrêmes pour certains à vivre au quotidien et l'opportunité qu'il y aurait à voter pour de nouveaux choix politiques, comme dans un peu plus d'un mois, avec l'élection présidentielle qu'ils perçoivent d'abord et avant tout comme un spectacle.
Claude Brouillot, merci beaucoup Claude, qu'on retrouvera évidemment régulièrement d'ici aux élections russes du 18 mars prochain. Sophie Enger est sur France Inter, Round and Round. Sophie Unger sur France Inter, on file aux États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actu en série le lundi, Trump saison 2 et Grégory Phillips qui marque son président à la culotte. Grégory, l'actualité de la semaine chez vous est marquée par un scandale de violence conjugale qui agite la Maison Blanche. Ça ne concerne pas directement le président mais deux de ses collaborateurs. Mais en pleine affaire MeToo, ça provoque beaucoup de turbulences.
Oui, depuis la semaine dernière, c'est l'affaire qui agite le tout Washington. Le premier de ses collaborateurs s'appelle Rob Porter. Il était le secrétaire en charge du personnel de la Maison Blanche et ses deux ex-épouses l'accusent d'agression physique et de violence psychologique. L'autre s'appelle David Sorensen, en charge de l'écriture des discours, lui aussi accusé par son ex-femme. Alors ces deux affaires font la une de tous les médias depuis quelques jours. Des journaux ont publié une photo de la première épouse de Rob Porter avec un œil au beurre noir et donc elle accuse son ex-mari. Et puis sa seconde épouse témoignait en fin de semaine dernière en direct sur NBC.
Ça vous isole tellement. J'ai parlé de honte, mais aussi il y a le sentiment de solitude. Vous avez l'impression que vous ne pouvez en parler à personne, que personne ne va vous comprendre. Donc pour moi, d'entendre son histoire à elle et de reconnaître qu'on a toutes les deux connu la même expérience, c'était un soulagement, une reconnaissance. Face à ça, on est ensemble.
Et alors, ce qui est intéressant, Grégory, dans cette affaire, c'est de voir comment la Maison Blanche traite ce problème.
Alors, d'abord, les deux conseillers ont quitté la Maison Blanche, et puis oui, ça provoque une belle pagaille, parce que toute la question est de savoir si le chef de cabinet, le chief of staff, John Kelly, était au courant ou non de ces accusations. Vous imaginez bien que pour travailler à la Maison Blanche, et encore plus quand vous êtes directement en contact avec le président, vous avez droit à une très sérieuse enquête de personnalité. Les Secret Service fouillent dans votre passé, ça paraît compliqué d'imaginer que personne ne savait.
Et puis il y a une histoire dans l'histoire, Rob Porter qui est aujourd'hui en couple avec une autre jeune femme qui s'appelle Hope Hicks. Et qui c'est cette dame?
Alors, on la connaît pas très bien, on la voit pas souvent dans les médias, personnage assez intrigant. On sait qu'elle a 29 ans, elle a été l'attachée de presse de la marque de bijoux d'Ivanka avant de rejoindre l'équipe de campagne de Donald Trump, puis la Maison Blanche où elle est directrice de la communication. Donc un très haut poste, on la voit tout le temps derrière le président, mais elle ne prend quasiment jamais la parole. Donc jeune femme très difficile à approcher, et donc en couple depuis peu avec ce Rob Porter. Je suis désolé, ça fait un peu les feux de l'amour, mais ça a de l'importance, parce que la question est de savoir si la directrice de communication de la Maison Blanche connaissait les soupçons qui pèsent sur son compagnon, si elle les a cachés au président et si elle a influencé sa réaction et ses premiers commentaires.
Alors justement, c'est là que je voulais en venir. Trump réagit comment, lui, dans tout ça?
Alors, en deux temps. D'abord, vendredi, où le président apporte un soutien, on va dire, appuyé à Rob Porter.
On lui souhaite le meilleur dans cette période qui est de manière assez évidente difficile pour lui. Il a fait du très bon boulot à la Maison Blanche. Et on espère qu'il aura une carrière formidable. Comme vous le savez sans doute, il a dit qu'il était innocent. Souvenez-vous bien de ça. Il a dit de manière très ferme qu'il était innocent.
Et puis deuxième réaction dans un tweet où Trump écrit, ça c'était samedi, des gens voient leur vie détruite et brisée par de simples accusations. Alors il faut noter, Fabienne, que depuis l'affaire Weinstein, Trump ne s'est quasiment jamais exprimé sur le mouvement MeToo qui chamboule depuis des mois l'Amérique. Et donc les féministes, après cette réaction, rappellent que le président a déjà officiellement soutenu cet automne lors d'une élection partielle en Alabama. On en avait parlé, un candidat soupçonné d'agression sexuelle sur mineurs. Elles rappellent aussi qu'une quinzaine de femmes ont ces derniers mois ou ces dernières années accusé Trump d'agression ou de harcèlement sexuel. C'est pour ça aussi que ces deux affaires de violence conjugale à la Maison Blanche prennent un relief évidemment très particulier.
Allez Greg, on termine en moins d'une minute sur quelque chose de beaucoup plus léger. On connaissait Trump, l'homme d'affaires, l'animateur de télé. Le voici maintenant, personnage de dessin animé alors.
Oui, depuis samedi, dessin animé diffusé sur Showtime, ça s'appelle Our Cartoon President, notre président de dessin animé. C'est produit par Stephen Colbert, vous savez, l'homme des Late Shows sur CBS. Voici un extrait.
But there is some good news.
What's this?
An executive order proclaiming that I tried to make you happy.
Donald, thank you.
More good news. My State of the Union ratings were so high, they asked me to do it again next year. Yay!
Voilà, et mon discours sur l'état de l'Union a fait un tel score à la télé qu'ils m'ont demandé d'en faire un autre l'année prochaine. Ça s'appelle Our Cartoon President, ça passe sur Showtime, mais vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Et donc, Trump saison 2, c'est aussi en dessin animé, Fabienne.
Allez, merci beaucoup, je vous ai éternué dans le nez, je suis désolé. Grégory, à la semaine prochaine.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Et Jean-Marc Faure met le monde à l'envers tous les jours à 18h55 et va volontiers fouiller le contresens de l'actualité internationale. Jean-Marc, dans les jours, les minutes qui viennent, peut-être même maintenant, Jacob Zuma quittera probablement son propre parti, l'ANC et aussi la présidence de l'Afrique du Sud. L'ANC qui est réunie en urgence sur le sujet aujourd'hui.
Alors, ils sont toujours réunis d'ailleurs.
Toujours, absolument, on attend qu'ils sortent. Question, est-ce qu'on se réjouit de la fin de ce despote corrompu? Ben, ce que vous nous dites, vous, c'est votre monde à l'envers, pas si sûr.
Vous savez quoi, hier c'était un anniversaire, c'était il y a 28 ans tout juste, le 11 février 1990, c'est d'ailleurs un petit souvenir personnel en toute humilité. J'avais eu cette grande chance de commenter en direct ce moment historique, la libération de Nelson Mandela. C'était chose. Juste magique, quoi. Le symbole de la fin de l'apartheid. Et 28 ans plus tard, l'Afrique du Sud en est donc arrivée là. Ce grand pays qui est peuplé comme la France est englué à l'arrêt. Il a le plus grand mal à se débarrasser, en effet, de Jacob Zuma, 75 ans, au pouvoir depuis 8 ans. Étrange personnage, hein, Zuma. Toujours en train de rigoler, souvent en train de danser, marié 6 fois, oui, 6 fois. C'est une sorte de Berlusconi africain. C'est-à-dire qu'il est empêtré jusqu'au cou dans les affaires, mais à chaque fois il s'en tire. Inculpation pour viol, relax. Inculpation de corruption sur, tenez-vous bien, 783 contrats de vente d'armes, relax. Condamné à restituer de l'argent public utilisé pour faire des travaux chez lui, tout de même. Il rembourse, il s'en sort, etc. Sa probable éviction, donc, semble une bonne nouvelle, mais c'est peut-être pas si simple. Ce qui va donner le là, d'abord, ce sont les conditions de son éviction. Zuma, en effet, semble prêt à partir, mais devinez quoi ? Il veut d'abord que toutes les charges soient abandonnées contre lui et qu'on lui paie ses frais de justice. Rien ne l'arrête. Donc, si c'est le cas, ça sera quand même le signe d'une démocratie pas très opérationnel.
Et alors encore faudrait-il que son successeur soit un peu plus vertueux et respectable, et là encore on a beaucoup de doutes quand même.
Alors lui il s'appelle Cyril Ramaphosa, c'est lui qui dirige désormais le parti majoritaire, l'ANC, c'est donc lui qui est appelé à succéder à Zuma. C'est vrai, il incarne une nouvelle génération, il a 10 ans de moins, et hier à la tribune, au Cap, il avait des accents charismatiques un peu à la Mandela. Mais quand on y regarde de plus près, l'homme n'est pas très net non plus. Au départ, c'est un militant anti-apartheid pur jus, bien sous tout rapport, devenu dirigeant syndical, adoubé par Mandela. Mais à la fin des années 90, il quitte la politique, devient businessman et, pardonnez le raccourci, il fait des affaires en partie sur le dos des Noirs. Il est à la tête d'un fonds d'investissement, Chanduka, il prend des participations dans l'immobilier, les télécoms, les mines, la restauration, etc. Il devient l'un des hommes les plus riches du pays, fortune estimée 450 millions de dollars. Plus troublant encore, vous vous souvenez peut-être de la grande grève en 2012 qui avait paralysé la mine de Marikana en Afrique du Sud. Ça s'était soldé par une intervention très musclée des forces de l'ordre, 34 morts. Qui siégeait dans le conseil d'administration de la mine ? Vous avez deviné, Cyril Ramaphosa. Donc c'est un homme qui a appris à être du bon côté de la matraque et il est aujourd'hui très éloigné de la vie quotidienne de l'immense majorité des Noirs sud-africains.
Donc Jean-Marc, ce que vous dites, c'est que vous doutez de sa capacité à réformer le pays.
En tout cas, c'est la question. Tous les indicateurs économiques sont en berne. Le chômage est à près de 30%, la croissance patine à 1%, la dette explose. L'Afrique du Sud n'est plus que la troisième puissance économique du continent. Et surtout, le grand espoir né avec Mandela semble enterré, la promesse de la grande redistribution au profit des Noirs. Un enfant sur quatre ne sait pas lire. La réforme de la terre qui est censée mieux répartir les ressources agricoles a été reportée. Les mines sont toujours contrôlées par les Blancs. Ces mêmes Blancs occupent 63% des postes de direction dans le pays alors qu'ils ne représentent que 9% de la population. L'Afrique du Sud mérite mieux, et avec elle sans doute toute l'Afrique du Sud, toute l'Afrique en fait, tout le continent a besoin d'une Afrique du Sud en bonne santé économique et politique, tout simplement parce que depuis Mandela, elle est un modèle. Et ce modèle aujourd'hui, c'est devenu celui de la corruption. Il y a 8 ans, on avait déjà eu droit à la même scène. Le prédécesseur de Zuma, Mbeki, était évincé, et à l'époque, Zuma se présentait comme le sauveur. 8 ans plus tard, play it again. Zuma va sauter, Ramaphosa est le sauveur, on va souhaiter que l'histoire ne se répète pas jusqu'au bout.
Jean-Marc Faure, dans Un jour dans le monde, merci beaucoup, à demain. Le 18-20 continue sur France Inter, merci de nous écouter.